question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on embarque dans les contrées humides des marécages du monde. On navigue entre les racines imposantes des palétuviers de Madagascar ou d'Indonésie. On se perd dans la brume épaisse et dans le vent qui hurle des marais d'Europe du Nord. Avec nos deux invités, le botaniste François Fromard et l'historien Jean-Michel Derex, nous allons tenter de percer les mystères de ces milieux entre terre et eau qui fascinent autant qu'ils effraient. Quelle surface occupent-ils sur la planète? Quelle richesse dissimulent-ils? Quels services rendent-ils à l'homme et à la nature? Et puisqu'ils disparaissent à grande vitesse, comment les préserver? Tourbières, lagunes, mangroves et leur lot de grenouilles, crabes et moustiques s'invitent dans Autour de la question. Bienvenue à eux.
Enfant de la pluie. Ces arbustes s'enracinent du mieux qu'ils peuvent dans le sol instable et spongieux. C'est l'eau qui a dessiné ce paysage. Elle en imprègne la terre. Petites et grandes créatures vivent en ces lieux. Souvent, on les devine à peine. Et à ceux qui les entendent, leur cri étrange inspire de la crainte. Magie de l'alliance entre l'eau et la terre, les lacs et les forêts. Le marais.
Et je le disais, avec nous en studio, Jean-Michel Derex, et au téléphone depuis l'Ariège, au pied des Pyrénées, François Fromard. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel.
Merci à vous.
Merci à vous. Jean-Michel Derex, vous avez écrit en 2017 un ouvrage qui s'intitule « Mémoire des étangs et des marais » aux éditions Ulmer. Qu'est-ce qui a fait que l'historien que vous êtes s'intéresse à ces zones mystérieuses que sont les marais ?
Bien, ce sont des terres de conflits. À partir du moment où il y a des conflits, l'historien n'est jamais très très loin. Tout ce qui concerne l'eau est toujours quelque chose très très humain. Et donc c'est un petit peu cette raison qui m'a amené à travailler sur les étangs, sur les marais.
Si vous deviez dessiner comme ça, à l'oral, un marais qui vous plaît tout particulièrement, pour que nos auditeurs aussi aient en tête le paysage, ça ressemblerait à quoi ?
Oh, ça, j'en ai plusieurs. Le marais Poitevin, le marais de la Vourse, les marais de Saint-Omer également, qui sont très très différents. Tous les marais ont leurs caractéristiques propres. Aucun ne ressemble à un autre et il faut le découvrir.
Et celui qui vous plaît le plus ?
Hop, le marais Poitevin peut-être ?
François Fromard, vous êtes, vous, botaniste, et votre zone de prédilection à vous, c'est la mangrove. Mais visuellement, c'est bien sûr très différent du marais. On plante le décor tout de suite avec un tout petit extrait du documentaire Home de Yann Arthus Bertrand.
Les mangroves sont des forêts qui marchent sur la mer. Comme les coraux, elles sont une pouponnière pour les océans. Leurs racines s'enchevêtrent et forment un abri pour les poissons et les mollusques qui viennent s'y reproduire. Les mangroves protègent les côtes des ouragans, des raz-de-marée et de l'érosion continue de la mer. Des peuples entiers en dépendent, et pourtant elles ont été réduites de moitié au cours du XXe siècle.
François Fromard, la mangrove sur la planète, elle représente quelle superficie à peu près ?
La mangrove, c'est environ entre 130 000 et 150 000 km², hein, selon la définition que l'on donne à cette mangrove et selon les moyens d'étude avec lesquels on les cartographie. Donc 130 à 150 000 km², ça paraît imposant, mais c'est environ 1% des forêts tropicales. Hein, donc voilà. Mais si on considère qu'elles colonisent presque les trois quarts de ces côtes tropicales, on se rend compte de l'importance qu'a cet écosystème pour ces régions.
Où est-ce qu'on va justement quand on veut observer la mangrove ?
Alors, quand on veut observer la mangrove, il faut aller donc dans les régions tropicales ou subtropicales et dans les régions littorales, hein, bordure de l'océan. puisque cet écosystème se développe, c'est la définition, dans la zone de balancement des marées, c'est-à-dire entre les zones de marées les plus basses et les marées les plus hautes, ou la zone d'estran, pour utiliser un terme géographique, donc dans la zone de balancement des marées, des régions tropicales, subtropicales, en bordure des océans. Elle peut remonter aussi le long de certains estuaires.
Et pourquoi est-ce qu'elle ne pousse pas à d'autres endroits du globe? On l'a entendu dans cet extrait, on parle d'une forêt qui marche sur la mer, mais des forêts en zone côtière, il n'y en a pas que dans les zones tropicales.
Oui, la mangrove est limitée, les palétuviers, qui sont les arbres qui constituent la mangrove, sont limités par les températures les plus basses, elles ne supportent pas les gelées ou les températures inférieures à un certain degré, que ce soit la température de l'eau de mer ou la température de l'air, et donc ce qui explique sa répartition, qui exclut donc les zones froides, les zones tempérées, qui les limite aux zones tropicales, subtropicales.
Jean-Michel Derex, les marées, vous les avez observées ici en France, plus largement en Europe, mais on peut les observer partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a en France, en Europe, mais moi je connais plus particulièrement ceux de la France.
Et alors il y a un terme qui regroupe à la fois les mangroves et les marais, c'est le terme que vous détestez, Jean-Michel Derex, le terme de zone humide, traduit de l'anglais wetlands.
Oui, tout à fait. Je pense que la traduction française n'est pas très très heureuse. Wetland était quand même mieux, une terre humide. Ceci étant, ça existe sur un plan historique. Esthétique, je dirais, c'est pas très très heureux. Sur un plan scientifique, ça n'a aucune, pour un historien tout au moins, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que ça regroupe des étangs, des marais, des plaines humides, des tourbières, et ces espaces ont des temporalités très très différentes. Par exemple, les étangs que nous connaissons, la plupart apparaissent au XIIe siècle. Et puis, sous la Révolution, parce que ce sont un symbole seigneurial et un symbole clérical également, eh bien, le comité de salut public décide, par un trait de plume, de tous les assécher. Voilà. Voilà une temporalité. Les tourbières, d'ailleurs, tourbières, c'est un terme très très récent. Quand on regarde les archives, on parle des marais tourbeux. On va tourber au marais. Et c'est cette tourbe que l'on va chercher dans le marais, eh bien, on l'utilise beaucoup sous l'Ancien Régime, mais surtout au moment du décollage de la Révolution industrielle, au tout début du 19e siècle, juste avant qu'on fasse l'extraction du charbon. Et là, on voit des courbes qui se croisent. À partir du moment où on augmente l'extraction du charbon, eh bien, l'extraction de tourbe diminue.
François Fromard, ce terme de zone humide, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Derex pour dire que c'est un peu un fourre-tout, ou alors c'est pertinent pour un botaniste?
Bon, disons que c'est un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout pratique. Hein. Oui. Effectivement, il est traduit directement de l'anglais. Hein, en termes scientifiques, en écologie, on emploie couramment le mot de wetlands hein, et on inclut les mangroves dans ce vocable très général, quoi, hein, qui est pratique. Après, on a des termes plus précis. Quand on parle de mangroves, on sait ce que c'est et on sait que c'est un des cas particuliers, c'est une zone humide particulière. Voilà. On emploie indifféremment le mot wetlands, le mot zones humides, sans trop de s'inquiéter de sa justesse. C'est un terme accepté globalement pour désigner ce genre de milieu.
Alors on va parler de ces autres milieux humides et zones humides dans cette émission, mais avant, on part en promenade avec Michel Delpech.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
Les perdreaux et les oies sauvages de Michel Delpech dans Autour de la question sur RFI. Et nos invités, l'historien Jean-Michel de Rex et le botaniste et écologue François Fromard. On fait un petit saut dans le passé tout de suite avec Annette von Droste-Hülshoff, poétesse allemande du XVIIIe siècle, qui capturait l'inquiétude suscitée par les marais.
Comme il est effrayant de traverser le marais quand il fourmille de feux follets. Que des brumes, telles des fantômes, tourbillonnent et que des sarments s'accrochent aux buissons. À chaque pas, une source jaillit d'une fissure, chuinte et chante. Comme il est effrayant de traverser le marais quand le roseau bruisse dans le vent.
Jean-Michel de Rex, pourquoi le marais est-il dans l'imaginaire collectif un endroit si inquiétant ?
Eh bien, il est dangereux d'abord. Il y a des trous d'eau, on peut s'y perdre, c'est un labyrinthe. Pensez à la mare au diable. Regardez ce chemin que l'on fait dans le marais. La nuit venue, on ne sait plus très bien, on perd ses repères. Et c'est inquiétant, il y a des bruits qu'on ne connaît pas. Et puis par-dessus tout ça, il y a des feux follets qui viennent. Qu'est-ce que c'est que ces feux follets On est à la fois aux portes de la création du monde et en même temps on est aux portes de l'enfer. Donc tout ça fait peur.
Donc il y a des légendes également qui entourent ces marais.
Plein de légendes. Je pense que chaque pays a sa légende sur les marais. Les plus connues, c'est la vouivre. La vouivre, c'est un serpent qui est affublé d'ailes de chauve-souris. Et cette vouivre a un diamant, une pierre précieuse extraordinaire sur son front. Et cette vouivre va de clocher en clocher, et notamment en Franche-Comté. C'est un animal qui n'est pas très très dangereux, sauf lorsqu'on veut prendre cette pierre précieuse. Et alors là, qui s'y frotte, s'y pique, si j'ose dire, elle devient furieuse et elle entraîne la personne qui veut s'emparer de ces pierres précieuses au fond des marais. Généralement, ce sont des bêtes, ce sont des belles femmes, mais très dangereuses. On a aussi les lavandiers en Bretagne, les lavandières de la nuit. Les lavandières de la nuit qui apparaissent au coucher du soleil et qui vont laver les suaires. Donc on est toujours aux portes de la mort, aux portes de l'enfer.
Vous avez parlé de la mare au diable et effectivement, on prête aussi au marais le statut de résidence secondaire du diable et en même temps du sabbat des sorcières aussi qui s'y retrouveraient. Et en même temps, vous dites dans l'ouvrage que vous avez écrit que c'est un lieu qui est paradoxalement très lié à l'Église.
Oui. Les communautés religieuses se sont installées dans ces espaces. Alors, généralement, c'était des espaces très très marginaux, personne ne voulait les cultiver. Et les seigneurs, à la fois pour s'attirer les faveurs de l'Église, donnaient ces terres que personne ne voulait. Et notamment les cisterciens, qui étaient de très bons hydrauliciens, ont su avec merveille les bonifier.
François Fromard, est-ce que la mangrove suscite autant d'inquiétudes ?
Oui, il y a autant, je pense, autant d'inquiétudes, autant de mystères, et il y a également de nombreuses légendes qui sont rattachées à ce milieu mangrove. Pendant que Jean-Michel parlait, je pensais aux djinns qui sont réputés peupler les mangroves à Mayotte, par exemple, ou aux sorcières qu'on appelle les Moana Insa, qui sont dans la mangrove et qui ont une réputation assez sulfureuse et qui sont un danger, qui sont des contes et des légendes que l'on raconte aux enfants et qui font que ces milieux sont assez à la fois redoutés par les gens et par les enfants et à la fois fascinants et mystérieux parce que difficiles d'accès, les insectes y pullulent, ce sont des milieux vaseux, voilà, il y a tout un mystère. Et donc de nombreuses légendes qui se rapportent à ces mangroves. Et les gens, évidemment, très différentes selon les pays, selon les régions, selon les territoires.
Mais est-ce qu'effectivement, on a le... comment dire, le droit de croire que ce sont des zones dangereuses pour l'homme?
Oui et non. Enfin, y a parmi les origines du mot mangrove, il y a une origine qui est sans doute un peu fantaisiste, mais qui est assez révélatrice. Mangrove, dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, on appelle ça le mangrove, le tombeau de l'homme blanc, hein, white man grove, hein, par analogie avec l'anglais. Et donc, des milieux dans lesquels on peut se perdre, dans lesquels, dans l'enchevêtrement des racines dont on parlait tout à l'heure, dans cette vase qui est le substrat premier des mangroves. C'est difficile de marcher, c'est difficile de se repérer, on peut s'y perdre. Et puis aussi, il y a le mouvement des marées, hein, qui peut être dangereux. On peut se faire surprendre et prendre par la marée. Il est alors difficile ensuite de revenir sur la terre ferme. Donc tout ceci fait que la mangrove est inquiétante et peut-être objectivement dangereuse si on n'y prend pas garde.
Alors Jean-Michel Derex, on apprend dans votre ouvrage que le marais est aussi une source étymologique intéressante. Toujours pour reparler de cette inquiétude, c'est une zone qui a la réputation de rendre les gens malades.
Oui, bah ce sont les fièvres paludiennes sont très, très importantes. On parle de la malaria. Malaria, qu'est-ce que c'est? Malaria, le mauvais air. C'est le mauvais air. Jusqu'à la révolution
en italien, c'est ça.
Pasteurienne, oui, on pense que les fièvres sont transmises par l'air. Et donc, quand on voit le matin toutes ces vapeurs qui montent de l'eau, on pense que ces vapeurs transmettent les fièvres. Et pourquoi les transmettent? On voit ces décompositions végétales au fond de l'eau, et donc tout ça remonte à la surface et vient attaquer les hommes. Quand on voit les courbes démographiques de ces pays, eh bien les grandes périodes de mortalité, c'est les périodes chaudes, c'est le mois de juillet, c'est le mois d'août. C'est les périodes où là, les hommes tremble. Il y a des très belles citations de Daudet, notamment des douaniers, de Corse, qui tremblent sous le soleil. Ils sont transients. Donc c'est une main-d'œuvre qui est aussi inutile, parce que les gens sont complètement transis de froid et ne peuvent plus travailler.
Alors la littérature, vous venez de le rappeler, a également beaucoup puisé dans l'imaginaire des marais et des marécages au sens large, y compris de la mangrove. François Fromard, on va écouter justement un extrait d'un autre poème, cette fois du prix Nobel de littérature Saint John Perse, qui est né en Guadeloupe. Un poème qui est chanté ici par Patrick Janvier.
L'île s'endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds. Et l'étang se grasse dans la fréquentation des vases somptueuses. Sous les palétuviers qui la propagent, des poissons lents parmi la boue ont des livres et des bulles avec leur tête plate. Et d'autres qui sont lents, tachés comme des reptiles, veillent. Les vases sont fécondés. Entends claquer les bêtes creuses dans leur coque. Il y a sur un morceau de ciel vert une fumée hâtive qui est le volant mêlé des moustiques. Les criquets sous les feuilles s'appellent doucement. Et d'autres bêtes qui sont douces, attentives au soir, chantent un chant plus pur que l'annonce des pluies. C'est la déglutition de deux perles gonflant leur gosier jaune. Vagissement des eaux tournantes et lumineuses.
Quelques vers de Saint John Perse qui, je le disais, est né en Guadeloupe. Il parle donc de la mangrove caribéenne qui était celle qui a bercé son enfance. C'était dans les années 1880, donc ça remonte un petit peu. Lorsqu'on se balade en Guadeloupe aujourd'hui, François Fromard, est-ce qu'on voit la même chose que ce qui est raconté par Saint John Perse ?
On peut voir effectivement la même chose, bien que depuis cette époque, évidemment, la mangrove s'est considérablement réduite. Mais ce qu'il décrit avec ses mots magnifiques de poète, c'est à la fois donc très poétique et très, très juste. Hein. On imagine et l'on voit la faune qui grouille dans ces vases qui sont fécondés. On imagine les moustiques, ces insectes qui se propagent par milliers dans ces mangroves. C'est tout à fait ça. On peut se retrouver tout à fait dans la mangrove aujourd'hui, la mangrove guadeloupéenne, martiniquaise ou autre, et avoir le même ressenti que Saint John Perse à l'époque, oui.
Alors justement, les moustiques dont il parlait et que vous venez de nous rappeler, c'est un vrai fléau dans les mangroves ou alors on peut s'y accommoder ?
On peut à la fois s'y accommoder, on peut se trouver en mangrove et dans des mangroves où il n'y a pas de moustiques, mais on peut aussi être surpris par non seulement les moustiques, mais par ce qu'on appelle les mouches sans raison, par les guêpes, par les temps.
Les mouches sans raison ?
Les mouches sans raison, qui sont des petits moucherons qui sont très abondants dans les mangroves de Guyane, par exemple, et qui sont très, très douloureux par leur piqûre, et qui souvent rendent difficile la progression dans la mangrove et le fait de pénétrer dans ces mangroves. C'est le plus grand danger, si on peut dire, dans la mangrove, le plus grand désagrément, disons, c'est la pullulation des moustiques, hein, plus que tout autre animal, serpent, crocodile ou autre, hein, qu'on peut trouver dans l'imaginaire de la mangrove. Ce sont les moustiques qui causent le plus grand désagrément, je pense, dans ce type de milieu.
Alors quelque chose de plus rare aussi qu'on apprend dans l'ouvrage que vous avez publié en 2018 aux éditions du Cherche Midi, ça s'appelle « Mangrove, une forêt dans la mer » avec vos deux consoeurs Emma Michaud et Martine Ossard-Mackie. On apprend aussi que le papillon peut être un nuisible pour celui qui se balade en mangrove.
Oui, c'est un papillon particulier, un papillon de nuit, hein, qui se développe dans les mangroves de Guyane, et puis dans les mangroves amazoniennes en général, Brésil, Guyane, Guyana, etc., et qui peut être très abondant dans certaines périodes de l'année, la saison des pluies notamment, qui va se développer et qui est très, très, très dangereux pour l'homme, hein, qui est très, très infestant et qui fait que dans certaines périodes, dans certains villages qui bordent la mangrove, je pense au village de Sinamari, par exemple, en Guyane, où ces phénomènes de papillonite se développe cycliquement, régulièrement. C'est vraiment un problème de presque de santé publique, hein, dans les périodes où ce papillon se développe. Non seulement en mangrove, même dans les rues de village qui bordent ces mangroves.
Et en dehors de ces espèces plus désagréables ou plus hostiles, on va dire, à l'homme, François Fromard, est-ce qu'il y a une autre espèce, en dehors du palétuvier, vous n'avez pas le droit d'en parler pour l'instant, qui a votre préférence ?
Ben, je pense qu'on ne peut pas parler de mangrove sans parler des crabes. Je ne sais pas si c'est des espèces qui ont ma préférence, mais ce sont les espèces les plus remarquables de par leur abondance, de par leur diversité, de par leur comportement et aussi de par leur rôle qu'elles ont en mangrove. Et on dit que les crabes sont les espèces ingénieures de la mangrove. Elles créent des terriers, elles bioturbent le sédiment, c'est-à-dire elles remuent la vase, elles enfouissent la litière, la matière végétale qui est en surface, elles l'enfouissent dans la vase, elles créent des galeries, donc elles oxygènent le sédiment. Donc il y a toute une structuration de la mangrove qui est créée par ces populations de crabes et ces espèces de crabes qui sont très diversifiées et qui sont souvent très, très étonnantes.
Comment on observe tout ça quand on est botaniste, François Fromard ? Vous partez avec un masque et un tuba dans la mangrove ?
Non, pas vraiment, mais effectivement, c'est souvent difficile. Alors, pour vous, quelquefois, quand les moustiques ou les papillons pullulent, on peut adopter la tenue des apiculteurs, hein, avec un masque, des gants, des pantalons longs et des manches longues. Et sinon, le problème pour aborder la mangrove, le problème, c'est se déplacer dans cette mangrove et sur ces vases. Donc, ben, j'allais dire, on fait comme on peut. C'est physiquement souvent assez difficile. On s'enfonce dans la vase, on s'accroche aux arbres, on trébuche sur les racines et chasse, et on essaie de progresser tant bien que mal. Et donc, j'allais dire, dans la mangrove, on la considère comme une forêt et on travaille comme un forestier en mangrove, mais dans une forêt qui est évidemment très particulière. Hein, voilà. C'est difficile de progresser, de se déplacer, d'y travailler.
Pour revenir au marais avec vous, Jean-Michel Derex, est-ce qu'il y a une espèce qui peuple ces contrées que vous avez étudiées qui vous plaît particulièrement, qui vous émeut,
Les
peut-être?
espèces, les libellules.
Pourquoi les libellules?
Parce que c'est très gracieux, c'est très esthétique, mais là, ça n'a rien du tout de scientifique. Hein.
Oh, bien sûr,
c'est vraiment une impression, ça me fait rêver.
Et les marécages sont aussi le repère des crocodiles trompettistes et des lucioles avec qui on va serpenter à travers le bayou.
Hé, hey, cousin Randy, on leur montre ce que c'est que la musique du bayou.
À ton service, cousin.
En avant, doudou. C'est parti, les amis. Allez, ma chère, suivez bien mon frère hier.
On va vous y conduire, on va vous y conduire, on va vous y conduire, les amis. On va vous y conduire, on va vous y conduire, on va vous conduire les amis.
Oh yeah!
À travers le bayou, à travers le bayou, à travers le bayou, on va vous y conduire.
Et toute la famille est là pour ça. Mimi, le cousin Boudon. Mamie, Aïté Trotto.
Pour tous, c'est tous pour un, c'est comme ça dans le bayou.
On va vous conduire, on va vous y conduire les amis. On sait où vous allez, on y va aussi.
On va vous y conduire à travers le bayou, à travers le bayou, à travers le bayou. On va vous y...
Un morceau du film d'animation La princesse et la grenouille des studios Disney avec la voix du comédien canadien et haïtien Anthony Cavana pour parler évidemment du bayou. François Fromard, quelle différence on peut faire entre bayou et mangrove?
Alors effectivement, il y a une différence fondamentale entre ces deux milieux qui, d'un point de vue paysager, peuvent se ressembler, puisqu'il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a une atmosphère assez étrange. La différence essentielle, c'est que c'est les bayous, c'est de l'eau douce, hein, c'est une zone humide, immergée, c'est une forêt immergée, une forêt marécageuse, mais c'est de l'eau douce. Donc il n'y a pas la même dynamique que les mangroves qui sont, elles, soumises au balancement des marées. Et surtout, mangrove, qui dit mangrove dit eau salée, qui dit bayou dit eau douce. Donc on n'aura pas la même végétation, pas la même faune. Et pour le bayou, on ne parlera pas de palétuvier, par exemple.
On parlera de quelle sorte
Alors, l'arbre emblématique des bayous, c'est le cyprès chauve, hein, qu'on a tous en tête quand on regarde le dessin animé dont vous parliez, quand on regarde, je pense au film de Bertrand Tavernier, là, dans La brume électrique. On voit ces grands arbres qui sont des cyprès chauves, qui sont des arbres à feuillage caduc et qui sont des résineux, et qui ont la particularité que, comme beaucoup de palétuviers justement, d'avoir des racines très, très, très spécifiques, qu'on appelle des pneumatophores, sont des racines qui ont la particularité de pousser de bas en haut et qui émergent de l'eau, qui émergent du substrat et qui ont un rôle de fixation des arbres, mais surtout un rôle respiratoire, hein, qui facilite les échanges gazeux de ces arbres. Donc les bayous sont les cyprès chauves et d'autres espèces, et la mangrove, ce sont les palétuviers, ce ne sont pas du tout les mêmes types de végétaux.
Alors ces palétuviers, évidemment, sont un peu les stars de la mangrove par rapport à d'autres milieux humides et marécageux. Oui. C'est la salinité de l'eau qui va, enfin en tout cas qu'ils savent, eux, gérer, peut-être à la différence des autres végétaux. Comment est-ce qu'ils se sont adaptés à cette salinité?
Ben c'est au fil lent et long de l'évolution. Il y a un certain nombre d'espèces végétales qui appartiennent d'ailleurs à des lignées botaniques ou à des familles botaniques très, très diversifiées, très différentes, qui sont adaptées aux très fortes contraintes de ces milieux. Donc, vous parliez de la contrainte due à la salinité, mais il y a la contrainte due au fait que ces arbres sont tantôt immergés, qu'ils sont dans de l'eau donc de l'eau salée, qui sont dans un substrat vaseux, donc instable. Et donc, il y a eu un certain nombre d'adaptations qui ont fait que ces palétuviers ont pu s'adapter à ces milieux particuliers, que toute autre espèce ne pourra pas s'aventurer dans cette mangrove, ou du moins ne pourra pas s'y développer durablement.
Il y a quelque chose d'assez étonnant qu'on apprend aussi sur le palétuvier, c'est qu'il n'a pas besoin, contrairement à beaucoup d'autres végétaux, de d'autres espèces comme des oiseaux ou des insectes pour se reproduire. Il est autosuffisant.
Oui, il faut les polliniser plutôt par le vent, et puis pour la dispersion des... C'est à ça que vous faites allusion, je pense, la dispersion de ces graines se fait essentiellement par le mouvement des marées, par les courants côtiers, les mouvements des marées. Hein. Ce sont des graines ou des fruits qui ont la particularité d'être vivipares, c'est-à-dire que le fruit, la future plante est déjà tout à fait développée alors que le fruit est encore attaché à l'arbre. Ce fruit va tomber. Si on est à marée haute, ben ce fruit va être entraîné par les courants côtiers et le mouvement des marées va pouvoir se développer plus loin, même beaucoup plus loin. Si on est à marée basse, il va se ficher dans la vase et se développer. Et se développer très vite puisque la plante est prête, hein, la plante est prête à sortir de ce fruit, à se développer. Et donc l'enracinement et la mise en place de ce nouvel individu se fera très rapidement. C'est une des particularités des palétuviers. Une des adaptations.
Ce sel qui compose l'eau, comment est-ce que le palétuvier fait pour le filtrer ou pour l'intégrer dans son organisme ?
Oui, le filtre, oui, l'organisme, c'est exactement ce qui se passe. Parce que le palétuvier, comme beaucoup de plantes dites halophiles, c'est-à-dire qui se développent dans les milieux salés, n'utilise pas le sel, mais a développé des systèmes de protection, d'évitement pour se protéger du sel, notamment des ions sodium qui sont plutôt toxiques, disons, pour les végétaux. Alors, il y a deux grands types de systèmes adaptatifs. Il y a des palétuviers qui bloquent le sel au niveau de leurs racines. Il y a des membranes particulières qui font que le sel ne pénètre pas dans la plante, ne pénètre pas dans ce qu'on appelle la sève brute du végétal. Et donc, le végétal va absorber de l'eau quasiment douce. Hein. Le sel va rester à l'extérieur. Et d'autres types de palétuviers, au contraire, vont absorber ce sel et vont l'excréter au niveau foliaire. Le sel va circuler dans toute la plante par l'intermédiaire de la sève et va être rejeté au niveau des feuilles par des glandes spécialisées.
Est-ce qu'il peut être exploité ensuite ? Comme les marais salants, ce sel des palétuviers ?
Dans certaines mangroves, le sel est exploité. Alors, ce n'est pas uniquement le sel qui sort des palétuviers, hein, c'est le sel qui est incorporé au substrat, qui est incorporé à la vase. Et dans certains pays africains, comme en Guinée, par exemple, ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, hein, l'exploitation du sel des mangroves est une activité traditionnelle qui a pu être importante. Ou dans une région, dans un département français, par exemple, à Mayotte, il y a dans certains endroits, on exploite le sel, mais pas directement le sel de mangrove, c'est le sel de la vase qui se développe à proximité des mangroves. Hein. Donc voilà. Mais il y a une exploitation, toute une tradition d'exploitation de ce sel lié directement ou indirectement aux mangroves, en effet.
Jean-Michel de Rex, le marais salant, c'est un peu la vitrine du marais aussi à la française. Quelle superficie est-ce qu'il recouvre ? Est-ce que c'est si important que ça ?
Sur le territoire français, ils ont régressé. Avant, ils allaient beaucoup plus sur le nord. Aujourd'hui, il y a deux grands centres, c'est la Camargue et puis les marais de Guérande.
En parlant de Camargue, vous avez fait une grande déçue dans l'émission. Notre attachée de production, Caroline Fillette, a appris que la Camargue n'était pas née avec la terre il y a des années, mais qu'il était beaucoup plus récent.
Oui. On s'imagine toujours la Camargue comme un territoire vierge et la nature par excellence. En fait, cette Camargue, ce parc régional, c'est un état tampon. C'est un espace tampon qui a été créé dans l'entre-deux-guerres et qui est un compromis entre la grande industrie salinière de Camargue et les agriculteurs, les uns voulant de l'eau salée, les autres voulant de l'eau douce. Voilà.
Est-ce que l'intérêt de l'homme pour les marais et pour leur préservation, en tout cas dans l'histoire, est dû au fait que le marais peut aussi avoir une valeur marchande ?
Ah, il a une valeur marchande très très importante. hier, oui, pour le sel. N'oublions pas que pendant très très longtemps, le sel, avant qu'on ait tous ces réfrigérateurs et autres pour conserver les aliments, eh bien tout se conservait dans le sel. Les gens dans les terres ne mangeaient du poisson. Les riches pouvaient avoir du poisson frais. Alors, pour la marée jusqu'à 300 km des côtes. Les hôtes avaient du poisson d'eau douce, mais il coûtait très cher. Sinon, les autres personnes avaient ou de la morue ou du hareng salé. Et les autres, toute la salaison était aussi conservée dans le sel. Et c'est pas pour rien non plus que la royauté s'est intéressée beaucoup au sel. Il y avait un impôt, l'impôt de la gabelle, qui était prélevé, donc que le roi prélevait sur tout commerce du sel un impôt. C'est la raison pour laquelle le roi avait beaucoup de marais salants sur les côtes.
Vous rappelez aussi dans votre ouvrage que les marais étaient habités. Est-ce qu'ils le sont encore ?
Ils étaient habités, il y avait beaucoup de toute une marginalité dans ces marais, des petites gens qui vivaient de peu, mais qui vivaient tout de même. Il y avait du braconnage, on allait vendre aussi des sangsues, on allait vendre un brin de muguet. On voit très très bien cela dans le film Les Enfants du Marais de Becker, où il y a c'est ces gens qui vivent de peu, mais qui vivent en liberté.
François Fromard, est-ce que les mangroves, elles aussi, sont habitées ?
Les mangroves sont peu habitées, mais c'est très, très contrasté selon les types de mangroves et les territoires. Par exemple, je prends l'exemple de deux types de mangroves que je connais assez bien, les mangroves de Guyane et les mangroves du Nord-Brésil. Dans les mangroves guyanaises, on ne rencontre quasiment personne. Elles sont difficiles d'accès, la vase est abondante et omniprésente, la mangrove est très dense, donc il y a peu d'activité et on tire peu de ressources de la mangrove guyanaise. Mais si on se déplace un peu plus au sud, juste au sud immédiat de l'embouchure de l'Amazon, par exemple, dans les états du Pará ou du Maranhão, on est frappé de voir l'activité qui règne en mangrove, la présence de pêcheurs, de pirogues, de ramasseurs de crabes, de villages qui s'installent à proximité immédiate de mangrove. Donc c'est très diversifié, cela dépend vraiment du type de mangrove à laquelle on fait référence.
On va parler justement de l'exploitation des ressources de la mangrove, mais aussi des services écologiques qu'elle rend, ces zones marécageuses en général, oui, pas uniquement oui. Les mangroves. Mais on va faire tout de suite un zoom sur la mangrove indonésienne.
C'est un trésor caché de la mangrove, invisible aux yeux, même à marée basse. Pour le découvrir, il faut écouter les explications du docteur Aldri, qui travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans et se rappelle encore de l'étonnement général suscité par l'étude de ces sols boueux où les bottes s'enfoncent.
La communauté scientifique était choquée des résultats concernant la captation du carbone de la mangrove. C'est 3 ou 4 fois plus, parfois 10 fois plus, que ce que capte la forêt terrestre.
Pour comprendre ces résultats prodigieux, il faut d'abord s'intéresser aux arbres de cette forêt entre terre et mer.
Les arbres, grâce à la photosynthèse, absorbent le carbone. Ceux de la mangrove font ça mieux qu'aucun autre arbre, car la marée monte et descend sans arrêt, donc le temps est compté pour absorber le carbone, et ils sont donc extrêmement productifs et rapides pour faire cela.
Ensuite, le docteur Aldri attire notre attention sur ces petits trous que l'on trouve partout entre les racines découvertes des arbres.
Regardez, tout ça, ce sont les crabes qui les ont creusés. Les crabes sont les petits ingénieurs de la mangrove. Ils se nourrissent des feuilles mortes et les emportent dans leur terrier. Les feuilles mortes ont une teneur en carbone très élevée car elles donnent au reste de l'arbre leurs nutriments avant de tomber. Et il ne leur reste presque que du carbone. Dans les forêts terrestres, ces feuilles mortes se transforment lentement en matière organique et restent au sommet des sols. Mais ici, grâce aux crabes, le carbone va directement dans le sédiment.
Mais ce n'est pas vraiment les prouesses des crabes qui ont alerté la Malaisie sur la nécessité de protéger la mangrove, note le docteur Aldri.
Après le tsunami de 2004, il y a eu une espèce de prise de conscience générale. La mangrove protège bien les côtes et ses habitants. Il y a donc eu des programmes de plantation massive, mais aussi beaucoup d'erreurs de fait, comme planter les mauvaises espèces au mauvais endroit. On a vu par exemple 400 arbres de cette espèce plantés sur des plages. Le lendemain, 20% seulement avaient survécu.
Pour Ariane Paz de Greenpeace Indonésie, le pays qui compte le plus de mangroves au monde, les dangers qui planent sur la destruction de cet écosystème sont encore nombreux et bien présents.
La principale menace qui pèse sur les mangroves est celle des industries d'aquaculture. La construction d'infrastructures et de bâtiments a également empiété sur les zones côtières de la mangrove. La Papouasie est la dernière grande zone de mangrove, mais elle y reste très menacée à cause de la construction d'infrastructures et d'établissements. La mangrove de Yotefabe s'est par exemple réduite de 70% à cause des constructions de ponts.
Le gouvernement actuel indonésien assure lui s'engager à restaurer 600 000 hectares de mangrove détruits d'ici 2024.
Un reportage de Gabriel Maréchaux à Kuala Lumpur pour RFI, c'était en novembre dernier. Encore une des richesses insoupçonnées des marais et notamment de la mangrove. François Fromard, on l'a entendu, c'est donc une éponge à carbone. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle en stocke plus encore que les forêts tropicales, 3 à 5 fois plus, alors qu'on les croyait championnes en la matière, ces forêts tropicales. Pourtant, ces forêts-là sèches, si je puis dire, elles ont aussi des ingénieurs, alors peut-être pas des crabes, mais aussi des ingénieurs qui leur permettent d'évacuer le carbone en se nourrissant de feuilles mortes. Alors qu'est-ce que la mangrove a de plus ?
La mangrove, effectivement, c'est très bien dit dans ce reportage, dans cet extrait, a une très forte capacité de fixer ce carbone. Elle a une très grande efficacité photosynthétique et donc elle fixe le carbone non seulement dans ses parties aériennes, dans ses branches, dans ses feuilles, dans ses fruits, ses racines aériennes, etc., mais également dans son sous-sol, dans sa vase, dans son substrat. C'est peut-être ce qui fait la différence essentielle avec la forêt tropicale, disons, de terre ferme. Donc la mangrove stocke le carbone qu'elle fixe elle-même par sa photosynthèse. Elle va capter aussi par la circulation des eaux le carbone qui arrive amené par les eaux des bassins versants qui surmontent, qui dominent ces mangroves. Et donc il y a à la fois le carbone propre à la mangrove et le carbone alloctone qui est drainé par les eaux et qui vient se réfugier dans les substrats, dans les vases de mangrove.
Alors pour les tourbières, je crois que c'est à peu près la même chose. On a environ 200 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées chaque année par les derniers marais de la planète. Sauf qu'en parallèle, évidemment, 5000 km² de marais sont anéantis chaque année à cause de l'extraction de tourbe à l'échelle planétaire. Et chaque fois qu'on draine, évidemment, le processus de décomposition des végétaux s'active. Donc on libère donc ce CO2 qui avait été stocké. Ce drainage des marais, il engendrerait un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Les causes principales de cette destruction, pour la mangrove, François Fromard, on l'a entendu, c'est la crevetticulture.
Effectivement, c'est la crevetticulture, c'est l'élevage souvent intensif de crevettes. On procède de la façon suivante, on ouvre des bassins dans la mangrove, donc on la défriche, on enlève les arbres, on enlève les palétuviers, on érige des digues, des systèmes de circulation des eaux, et on élève de façon intensive des crevettes. Et puis ce système, ces bassins marchent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis après il y a des problèmes de parasitisme, des problèmes d'appauvrissement du milieu qui fait que le rendement des crevettes n'est plus suffisant, n'est plus rentable. Et donc on abandonne ce bassin et on va en construire un peu plus en amont. Et ainsi, peu à peu, la mangrove recule, les bassins se développent et la mangrove donc disparaît. Et c'est important, comme on l'a dit dans ce reportage, dans de nombreux pays asiatiques, comme en Indonésie, au Vietnam, mais également en Équateur, dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc c'est effectivement la cause essentielle du recul des mangroves a été pendant longtemps et encore le développement de la crevetticulture en bassin intensif.
Mais Jean-Michel Derex, côté nord, ici, côté marais, en Europe, qu'est-ce qui fait disparaître nos marais ? Qu'est-ce qui les fait reculer le plus ?
Si on reprend un petit peu sur le long terme, je dirais que c'est la croissance démographique. Lorsque les hommes avaient soif de terre, il y avait deux solutions. Ou bien on rognait sur la forêt ou on rognait sur les marais. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des extensions démographiques, et notamment au XVIIIe siècle, eh bien on a asséché et beaucoup de marais ont disparu.
Donc c'est l'artificialisation des sols.
En quelque sorte.
Le parking qui est construit ou l'agriculture.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit très très bien dans ce film. Je reviens sur ce film, Les Enfants du Marais. Le dernier plan de Becker dans ce film, c'est un supermarché qui est construit sur un marais, je crois, sur un marais à Bourges. Donc c'est très symbolique.
Un dernier mot aussi, François Fromard, au sujet des services rendus par ces mangroves. Le reportage de Gabriel Maréchaux évoquait le tsunami de 2004 en Indonésie, qui a fait plus de 220 000 victimes. Ça veut dire que si la mangrove avait été moins détériorée à cet endroit, l'histoire aurait été différente ?
C'est effectivement ce qui a été démontré et observé, c'est que les zones où les victimes ont été les plus nombreuses, c'est les zones où la mangrove avait disparu, au moins avait été fragmentée par la destruction, par le déboisement, par des constructions humaines, etc. Et on démontre que la mangrove ne peut pas limiter totalement l'énergie, l'influence, la dangerosité des cyclones et des tsunamis, mais elle la ralentit considérablement et fait que dans les zones qui sont protégées par des mangroves côtières, les populations qui se trouvent protégées par ces mangroves subissent moins de risques que les populations qui se trouvent dans les zones où les mangroves ont été détruites ou largement fragmentées.
Merci beaucoup, François Fromard, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, Jean-Michel Derex.
Merci beaucoup.
On peut vous lire tous les deux dans le dernier numéro de la très belle revue Relief, consacrée aux marais. C'est le numéro 15. Elle est sortie il y a 15 jours, voilà. Me disiez-vous. On se quitte avec un morceau que vous appréciez, François Fromard, je crois, c'est votre choix. Icar, d'Émilie Loiseau sur RFI.
Dessus la mer, Icar est tombé comme un éclair, juste un éclat sur l'eau, un détail dans le tableau. Le soleil brillait dessus la terre, chacun occupé à son affaire. Seul frissonnait l'air et une plume dans l'eau. Icar volait, se devenir oiseau. Icar, n'oublie pas le poids de tes os. On dira de lui qu'il était fier, qu'il volait trop près de la sur l'eau, un détail dans le tableau.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Violas et Caroline Filliette. Demain, on s'intéresse à l'histoire de notre planète bleue avec la géologue Anne Nedelec. Après avoir étudié les roches aux quatre coins de la planète, elle retrace dans son dernier livre à destination du grand public la naissance et l'adolescence de la Terre jusqu'à ce que nous, êtres vivants, arrivions dans sa vie. À demain, mercredi, même heure, sur RFI.